Mediterráneo Isula na Córsega, Sardegna, Sicilia.
Nei viaggi fantastici gli eroi partono dalla terraferma e vanno verso le isole. Noi di Mediterradio facciamo il contrario, partiamo dalle isole e andiamo verso la terraferma per scoprire come il Mediterraneo viene vissuto. Allora siamo qui, cari ascoltatori di Mediterradio, in Puglia a Conversano, ospiti di un bellissimo festival letterario Lector in Fabula, e oggi parleremo di Mediterradio. Come sempre, la squadra delle tre isole di Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corse, frequenza Mora, Vito Biolchini da Cagliari ma a Conversano, Petro Luigi Alessandri da Bastia e poi Salvatore Cusimano da Palermo. Salute amici e saluti a tutti quelli che qui in piazza oggi ci stanno ascoltando.
Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori in faula, Di quando in quando l'hai detta, Vito, noi franchemmo un mare per andare in terraverma e a faula stavolta. Che di bene in De Puglie per fare Mediterradio in faula e in piazza.
È la prima volta che Mediterradio viene in Puglia, mi pare. Abbiamo già un po' di regioni e un po' di paesi, ma questa è la prima volta. Veniamo a Conversano, siamo molto stupiti, dicevamo, soprattutto della partecipazione agli eventi che sono in programma, peraltro per una manifestazione che ormai ha una rispettabile età ed è premiata sempre da successi e da tantissimi giovani.
Parleremo la settimana prossima del festival Lector in Fabula, parleremo col suo direttore, con il sindaco di Conversano, ma oggi vogliamo dedicare questa puntata al tema che ci è più caro, il Mediterraneo, che in questo festival viene trattato in tantissimi incontri. Allora ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti, lo scrittore Matteo Nucci, che qui a Conversano parla di Mare Nostrum, storie di antichi profughi, Annalisa Camilli, che è una giornalista di Internazionale, che ha appena pubblicato per Rizzoli La legge del mare, e poi Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli, che sono due storici e sono anche autori del libro Il Mediterraneo in 20 oggetti. Allora io partirei proprio da Alessandro, questi 20 oggetti insomma che attraversano la storia, attraversano il mare. Come vi è nata l'idea di scrivere questo libro in un momento in cui il Mediterraneo più che unire sembra invece dividere i popoli?
Proprio perché c'è bisogno di ritrovare un minimo comune denominatore attraverso cose semplici che possano dare l'idea di una continuità e di una profondità di questa storia. Allora, al di là di qualsiasi racconto di storia, di viaggio, eccetera, l'idea di ripartire da oggetti i più semplici possibili, ma proprio per la loro semplicità, i più comuni possibili, ci sembrava una strada facile per poter spiegare a molti, quanto questa storia gli appartenesse. E dunque ecco che si ripercorrono strade attraverso oggetti come la rete, l'anfora, la chitarra, la bussola, e o cose leggermente più, apparentemente più particolari come i pupi, che sì, sono siciliani, ma raccontano storie molto più vaste a guardarli bene.
Come si è fatta la scelta di soggetti? Una scelta veramente riflettuta o è giunta così?
La scelta non è stata per niente casuale, è stata una scelta meditata, ci abbiamo impiegato del tempo, abbiamo fatto una selezione, siamo partiti da una cinquantina d'oggetti e poi piano piano abbiamo scremato anche rispetto alle storie che potevano raccontare. Per esempio abbiamo capito che era praticamente impossibile raccontare il remo, era proprio complicato, difficile, o la vela. Abbiamo preferito trovare degli oggetti invece che potessero essere consuetudinari, quotidiani, che parlassero anche di una vita casalinga, di una dimensione ridotta, personale, privata, come per esempio la lucerna o la candela, perché per esempio si ragiona pochissimo o non si è mai raccontata la storia dello scontro, della guerra dell'uomo con la notte, soprattutto la notte sul mare, no? Lo vediamo in questi giorni con quello che succede sulle barche dei profughi che cercano di venire sulle nostre coste. Si vedono queste immagini di notte di gente disperata e dispersa che cerca con un cellulare di avere un minimo di bagliore nella notte.
Ci prendiamo una piccola pausa musicale come al solito e vi facciamo ascoltare un brano, quello siciliano, di Cusugno, di chi sono? Si chiede Alfio Antico, che è un grande percussionista, un compositore, un cantante, in un disco che si chiama Guten Morgen, e questa è la traccia che facciamo ascoltare.
L'acqua quando piove di l'erba straziata su tali peri, sogno dell'armonia chi lo cori teni e di lo desiderio chi si canta, sogno di una cosa mi cantica di l'arma luzzi che buccano li testi, sogno di lo cielo quando investa e di la gioia di niente dopo la fatica, di cusugno e chi ci fazzo in questo mondo pazzo, di cusugno e chi ci fazzo in questo mondo pazzo, e papapira parata di papapà. Sogno di lo scanto di la notte che trattene luciato fino mattino, sogno di le nuvole mai stessi e lo sole e l'aria ne so felice, cantan pescatori ricogliendo pesce, semo di lo fuoco che domamo senza ligna, siamo tanti pezzi chini di storie, figli di sireni e di ciclopi, di cusugno e chi ci fazzo in questo mondo pazzo.
Mediterradio, puntata speciale, siamo in Puglia, siamo a Conversano, ospiti del festival Lector in Fabula, e parliamo di Mediterraneo. Tra i nostri ospiti oggi Annalisa Camilli, che è una collega, una giornalista di Internazionale, come ricordavamo in apertura, ha scritto per Rizzoli La legge del mare, una legge che è antica come l'uomo, ma che oggi l'uomo sembra voler disattendere invece.
Proprio per questo ho scritto questo libro, mi sembrava interessante riflettere come un paese come il nostro, che è circondato dal mare, che ha la legge del mare inscritta, no, nella storia delle comunità che appunto sul mare abitano, abbia potuto nel giro di poco tempo mettere in discussione un principio così semplice come quello del soccorso. Appunto in mare non esistono stranieri, clandestini, ma soltanto due categorie: chi va per mare, naviganti e naufraghi. Tutti i naviganti possono diventare naufraghi. Questa, diciamo, relazione molto semplice di specchio, diciamo così, tra chi va per mare e chi rischia di morire in mare, ha dettato appunto una legge naturale, no? La legge del mare, che risale al diritto romano e che poi è stata nel corso dei secoli codificata da molte legislazioni, da convenzioni internazionali che il nostro paese ha sottoscritto e che appunto tutti i popoli di mare conoscono molto bene. Chiunque è in difficoltà in mare deve essere soccorso e tutti gli stati devono cooperare per rendere più veloce possibile il soccorso. Eppure in Italia, nel nostro paese, nel giro di pochissimo tempo questo principio appunto del soccorso mare è stato messo in discussione. Io cerco di ricostruire quello che da cronista ho osservato attraversando il Mediterraneo molte volte in questi anni con i soccorritori, con chi andava a soccorrere chi era in fuga dalla Libia in particolare, e ho cercato di ricostruire come è stato possibile che un principio fondamentale appunto così profondamente inscritto nella nostra cultura, così profondamente legato alla nostra identità e alla nostra italianità, sia stato messo in discussione.
Lei ha scritto recentemente, lo scrive anche nel libro, a proposito delle organizzazioni non governative, insomma, che si muovono nel Mediterraneo, sono passati dall'essere angeli del mare ad essere vice scafisti. Il contesto attuale, culturale e politico, ovviamente alimenta tutto il contrario di tutto. Lei come ritiene che si possa in qualche modo trovare una sintesi?
è un po' la domanda che percorre tutto il libro, questo processo a cui abbiamo assistito molto rapido di imbarbarimento e che è passato anche dall'imbarbarimento del linguaggio e da una certa forma di propaganda che ha usato soprattutto alcuni strumenti, è reversibile questo processo? Io non sono sicura che lo sia. Credo che ci sono, diciamo, alcuni segnali che in questi anni poi si è mossa, diciamo, una resistenza anche culturale appunto a questo imbarbarimento, e però io credo che per certi versi questa cultura del sospetto che fondamentalmente ha rotto alcuni legami nelle nostre società, nelle nostre comunità, e che ha ridotto tutto quanto a una logica di amico-nemico, di fai parte della mia comunità o la stai mettendo in pericolo, sei un invasore, io credo che gli effetti in qualche modo di questa guerra alla solidarietà, al mondo umanitario, al soccorso, rimarranno per molto tempo, e recuperare, diciamo così, le sfumature, no? Recuperare un terreno comune, appunto ripristinare alcuni legami, vorrà dire in qualche modo ricostruire anche un linguaggio, appunto.
Ecco, Matteo Nucci, sotto questo aspetto, l'esempio del mondo antico, del mondo greco, può aiutarci a ricomporre un quadro che adesso si sta rompendo? Cioè, possono arrivare degli esempi dal mondo antico che possono aiutarci a ritornare a quello che, insomma, noi eravamo e siamo ancora, cioè un popolo che divide insieme ad altri un destino comune?
Non lo so, nel senso che gli esempi ci sono, e il problema è che questi uomini e donne che hanno portato all'imbarbarimento di cui stavamo parlando, di cui si sta parlando e si parla in continuazione, sono gli stessi che ti portano come esempio, per esempio, Enea, no? Romano, Roma, Fondazione Roma, la nostra identità. Enea è un profugo. No? Enea, nel secondo verso dell'Eneide, è definito profugo, profugus, latino profugo. Enea arriva profugo, Troia in fiamme, fugge da Troia, fa peraltro percorre una delle rotte che sono più percorse oggi, perché Troia è sostanzialmente, Enea parte da Antandro. Antandro è un piccolo porto a sud di Troia, da cui in questi anni migliaia di uomini e donne sono partiti, sono arrivati lì davanti c'è Lesbo. Enea non arrivò a Lesbo, andò su in Tracia, poi andò a Delos, poi andò a Creta, poi arrivò in Sicilia, poi andò a Cartagine, poi ritornò in Sicilia, poi, insomma, è lunga la sua storia, ma Enea è un profugo e porta alla grandezza, no? No, rappresenta la grandezza del Mediterraneo, nel senso delle unioni, gli incontri, e se c'è una grandezza nella storia, nel mito che fa di Enea, no, il fondatore di Roma, bene, in che cosa sta? Nel fatto che ci siano scambi, che ci si unisca, che ci si mescoli, tutto qua. Quindi, ma gli esempi, dice, sai, questi sono ignoranti, l'identità Enea, non sanno neanche che è un profugo, va bene, ok, lasciamoli perdere. Ma ci sono talmente tanti esempi nell'antichità, parliamo di Parmenide, il grande filosofo della verità, no? Tutti a scuola l'abbiamo studiato, nessuno ci ha capito niente, perché non si capisce niente di quello che si studia sui manuali al liceo, ma neanche dopo, perché Parmenide è un poeta molto complicato, fantastico, ma insomma difficile da interpretare. Beh, Parmenide chi è? È quello che noi chiameremo oggi un migrante di seconda generazione, no? È il figlio dei migranti che venivano da Focea, cioè di nuovo quella stessa rotta, no? Quelli scappavano dai persiani e arrivarono a fondare quella che oggi è Velia, Elea, peraltro un sito archeologico straordinario, bellissimo, dove non va nessuno, perché la si studia la scuola di Elea, ma Elea non si va, insomma, Cilento, posto favoloso, va bene. Loro arrivarono lì, fondarono la città, aprirono la loro scuola medica, di medicina, la scuola di filosofia, e Parmenide è quella, la conseguenza di una migrazione. La storia dell'antichità è una storia di migrazioni, ma la storia dell'umanità è una storia di migrazioni, ma insomma, ma a Roma si dice di che stiamo a parlare.
Una pausa musicale. Diana Saligedi di una di esperienze di Ugantu Corso d'Oglie a una oggia di Villudu ci canta una ninni nanna tradizionale di Corsica, composta durante la guerra di 14-18 da Ubueda Pedro Lega d'Arbori. sotto l'ubonte ci luce la luna, e a luna chi guarda a dara in guara, e ubueda a uvronte chi fage chi rivage in deasomente a vida di uso paese, ugane uiagaru chi abbaglia, u gatto chi saliscia a vigna in due i vighi so dolci e madura lua.
Otta lubonte ci luce la luna, e stel in cielo un ne manca mancuna. Dormi in igastani si lania luanto, un nostro lume sarà presto spanto. Dormi in una casa magualesera, batte l'ustaccio e si sente cantare. Dormi uia tu maia salisce l'umustaccio, pianta la voce si gheda l'ustaccio. Dormi un diagaru abadia una giotta mela sempie la stanza d'ore di me.
Matteo Nucci, lei trova ispirazione per formazione, probabilmente per interesse, nella Grecia, ecco, nei filosofi, nei poeti, ma come si sente lei a vedere la Grecia, come è stata trattata dall'Europa di cui è stata madre?
Male, molto male, ovviamente, anche perché insomma è sotto gli occhi di tutti, poi l'hanno anche ammesso gli stessi responsabili. È stato esagerato il trattamento, ma era del tutto inutile il trattamento a cui è stata sottoposta la Grecia. Però c'è qualcos'altro, perché lei mi richiama gli antichi e parla della Grecia di oggi come se fossero due cose molto lontane. La Grecia dei tempi di Omero, la Grecia classica, 2500, 3000 anni fa, e la Grecia di oggi. Ma non è così lontana, anzi, ci sono, visto che stiamo parlando di Mediterraneo, di scambi sul Mediterraneo, ci sono istituzioni che sono rimaste invariate e vitali, vive anche oggi, e che risalgono a istituzioni dell'antica Grecia e che fanno la differenza del Mediterraneo, del nostro Mediterraneo, rispetto all'Europa protestante, vorrei dire, che è quella che sta diciamo spadroneggiando in questi anni. E l'istituzione principale è quella della Xenia, che voi tutti conoscete qui, voi tutti conoscete le vostre isole e tutti quelli che vivono qui a Conversano conoscono benissimo, noi che viviamo sul Mediterraneo conosciamo benissimo l'istituzione della Xenia, l'istituzione dell'accoglienza dell'ospite, cioè lo xenos, quello che oggi viene usato più per dire xenofobia, paura, fobia dello straniero. Lo xenos è lo straniero, ma è anche soprattutto l'ospite. Xenos vuol dire questo, straniero e ospite, perché chiunque arriva senza cattive intenzioni deve essere ospitato. Non gli si chiede chi sia, non gli si chiede dove vada, lo si mette a tavola, gli si offre un bicchiere di vino e gli si dice: bene, ecco, te ne bevi un attimo, tranquillizzati, così si fa.
Ed è esattamente quello che è stato fatto con noi qui a Conversano, dove stiamo registrando questa puntata speciale di Mediterradio. Vorrei chiedere ad Amadeo Feniello, che insieme ad Alessandro Vanoli ha scritto Il Mediterraneo in 20 oggetti, se c'è un oggetto dell'ospitalità che accomuna insomma tutti i popoli del Mediterraneo. L'avete trovato? C'è qualcosa che può simboleggiare l'ospitalità secondo voi?
La padella, il pane, l'anfora del vino,
sono tutti quanti oggetti.
Tutto cosa concerne Ojibwe.
Elementi di culture condivise dove non c'è un creatore preciso, tipo la rete. Esistono tutta una serie di elementi che appartengono al Mediterraneo, senza differenze di tipo ideologico, religioso, culturale. Quindi c'è una condivisione totale, si sta intorno ad una padella e si mangia tutti quanti insieme. La pizza che di Enea che ritrova quando arriva sulle coste del Lazio non è nient'altro che una mensa condivisa.
Mediterraneo e condivisione.
Annalisa Camilli, nostro libro a legge di un mare. Un mare di oggi è un spazio drammatico, il Mediterraneo è un spazio drammatico. E in Corsica un mare una tanta avuto simpatia nei secoli, perché rappresentava a maniera un mezzo per far parte i corsi all'estero e con un altro oggetto di un libro di nostri amici Guine, dirà la valigia, un mare e la valigia insieme, un mare che portava via in questa valigia i corsi per altre contrade. L'hai sperimentato questo fatto o no?
È interessante che un paese come il nostro, che ancora oggi vede 150.000 ragazzi nel momento migliore della loro vita, subito dopo aver concluso gli studi, lasciare questo paese, un paese come il nostro in cui in 15 anni 2 milioni e mezzo di persone hanno lasciato il sud, si sia concentrato così tanto sulla paura di chi arriva, tanto da trasformare appunto il mare nostrum, quel mare che è stato sempre una strada in frontiera. E come tutte le frontiere, quella frontiera è diventata una frontiera di morte, una frontiera che divide e quindi che imprime dei segni di violenza sulle vite, sui corpi di chi la attraversa. È diventata una frontiera appunto in cui tantissime persone hanno perso la vita e quindi senza soccorso in questo momento, o respinte addirittura indietro, rimandate indietro in un posto come la Libia, che è un inferno. Quindi in qualche modo questo doppio valore del mare in questi anni ancora di più è ritornato in qualche modo nell'immaginario di tutti, no? Il mare che è sempre stato una risorsa per i nostri popoli, per le nostre popolazioni, che è sempre stato qualcosa che ha unito, una strada d'acqua, è ritornato molto velocemente a essere invece una frontiera, qualcosa che divide e qualcosa che quindi lascia dietro tante persone a morire, quindi si è trasformato nella cosa peggiore, in un cimitero.
Noi crediamo nei ponti e tra i ponti c'è anche la musica, contaminazioni tra elettronica e sonorità della tradizione sarda, Saphir Now con Imaginary Cloud. Radio, puntata speciale a Conversano in Puglia, dove si è svolto Lector in Fabula, un bellissimo festival letterario giunto alla 15ª edizione. Siamo in chiusura con i nostri ospiti, con loro stiamo parlando di Mediterraneo. E Salvatore, io direi che sta emergendo ancora di più l'idea che il Mediterraneo sia veramente il luogo per eccellenza della contaminazione, dell'incontro. Senza appunto questi concetti non ci può essere neanche un'idea stessa di comunità quali noi viviamo.
Ma io vengo da un'isola in cui la contaminazione esiste da sempre e in cui la nostra arte, l'arte che piace a tutto il mondo, in fondo è il frutto di questa contaminazione e di questa circolazione della cultura dentro il Mediterraneo. Eppure è vero che ci sono state guerre, non bisogna scordarlo, ci sono stati conflitti, perché l'incontro delle persone, degli uomini e delle donne, non sempre è facile, soprattutto degli uomini, perché i combattenti erano gli uomini. Ecco, voi avete un'idea del Mediterraneo così ricca, perché non riesce a passare? Perché gli scrittori, i giornalisti e gli artisti, i medievisti non riescono a far passare quest'idea giusta del Mediterraneo?
E perché, non lo so, adesso in questo momento forse perché viene sottovalutato il tempo libero, si prevalendo quest'idea protestante che il tempo va utilizzato solo per lavorare, perché bisogna lavorare, chi più lavora, chi più guadagna, poi si conquista meglio il paradiso. Questa è l'etica protestante, diciamo, no? Che sta un po' dominando, Max Weber, il capitalismo, no? Che domina i nostri giorni, si sottovaluta molto l'idea che il tempo libero sia il tempo fondamentale. La nostra origine, diciamo, greco-romana, mediterranea, è quella del tempo libero. Il tempo libero è il tempo prezioso alla crescita personale. Non bisogna lavorare, c'è un tempo che va sottratto al lavoro, alla necessità materiale, per dedicarlo a se stessi, per mettersi in crisi, per ragionare che strada voglio prendere, cosa voglio fare della mia vita per crescere interiormente. Serve il tempo libero, non il tempo del lavoro. E spesso chi è intellettuale, artista, cioè, viene e dice: tetta, non fai niente, quello è il tempo libero. Non lo so, forse è questo.
La narrazione che passa attraverso i social network e attraverso la TV è più forte in questo momento della narrazione sperimentata, dell'esperienza in qualche modo della realtà. C'è questa, diciamo, preponderanza, questa forza maggiore di quello che viene visto e sentito e ascoltato nei mezzi di informazione rispetto all'esperienza. E questo, secondo me, ha un peso. In qualche modo bisognerebbe ritornare appunto a fare esperienza anche del mare, no?
Perché storicamente da sempre la guerra e il guadagno sono molto più allettanti della condivisione. Tutto qua.
Io farei un pensierino tipo bambini, tipo: perché il Mediterraneo è blu, la gente non ci ragiona più sul fatto che il Mediterraneo è blu. Tutti quanti pensano che tutta questa cosa sia una cosa morente, declinante. Invece, se si ragionasse di più sul fatto che il Mediterraneo è blu, sarebbe una bella prospettiva.
Voi avete scritto Il Mediterraneo in 20 oggetti. Nel prossimo libro parlerete anche dei prossimi 20 oggetti, quindi anche la radio potrebbe essere un oggetto del Mediterraneo, magari. Come...
Perché no?
Noi ci stiamo lavorando.
Perché no?
E allora si conclude qui questa puntata speciale di Mediterradio. Pietroluigi, siamo stati a conversare, ma continueremo ad essere qui anche la settimana prossima per un'altra puntata speciale.
Un altro appuntamento speciale di Mediterradio, Mantua Piazza di Conciliazione, allora, Duesimo.
E allora ringraziamo Amedeo Feniello, Alessandro Vanoli, ancora Annalisa Camilli e Matteo Nucci, e poi Salvatore ringraziamo chi oggi ci ha aiutato a registrare questa puntata in piazza.
Vabbè, Serena Schiffini, che costringiamo sempre a cose pazzesche. Un giorno bisognerebbe fare un video su Serena che si contorce facendoci segni
insieme,
che bisogna chiudere, e allora
e
chiudiamo.
Tutti i tecnici, e poi tutti i tecnici,
e tutti i tecnici di Conversano,
utilissimi. E la chiusura, come sempre, alla Corsica, a Pietroluigi.
Abideci a tutti. Nous retrouverons nos amis siciliens et sardes la semaine prochaine. Mediterradio continue et nous allons rester à Conversano dans les Pouilles et à ce festival magnifique Lector in Fabula en compagnie de Michel Krishka, un des plus grands dessinateurs de presse d'Israël, qui était l'un des nombreux invités du festival. Il nous parle de son métier qui est attaqué aujourd'hui, mais aussi des relations israélo-palestiniennes. Nous retrouverons après le professeur Jacques Orsoni qui va, lui, nous parler de la Méditerranée. Il vient de publier un livre au titre évocateur, « Le ciste et le jasmin ». Nos intermèdes musicaux avec Kidir, l'hymne de nos campagnes, et Roberto Alagna à Ballate. Mais avant, la revue de presse méditerranéenne que j'ai parcourue pour vous.
Mediterradio, la revue de presse.
Le Vatican, secoué par un autre scandale, mais celui-ci est financier. Une enquête a été ouverte sur l'investissement de 200 millions pour un immeuble de luxe à Londres. Une ombre sur les réformes, titre le journal Le Corriere della Sera. Le Vatican a ordonné une enquête ainsi que sur le rôle qu'a joué le cardinal Becciu, ancien substitut à la secrétaire d'État. La presse étrangère et méditerranéenne a mis à sa une la disparition de Jacques Chirac. Chirac a su gouverner vers où tourne le vent, écrit par exemple El Confidencial en Espagne. Mais la presse étrangère, si elle retient comme point positif la non-participation de la France à la guerre en Irak en 2003, elle dresse aussi une analyse plutôt critique de son action. Le journal italien de centre-gauche La Repubblica souligne sa condamnation à 2 ans de prison avec sursis en 2011, mais rend hommage à l'homme politique qui a su être en harmonie avec les citoyens français. Le second tour de l'élection présidentielle aura bien lieu le 13 octobre en Tunisie. Un des 2 candidats qualifiés, Nabil Karoui, restera en prison, mais le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Nabil Bafoun, pense qu'il doit être aidé afin qu'il s'exprime devant les journalistes. C'est le titre de la presse tunisie. En Algérie, on se prépare aussi à l'élection présidentielle et l'important syndicat UGTA s'y est dit favorable. C'est la seule alternative pour sortir de la crise, estime son secrétaire général, qui demande la création d'un impôt sur la fortune et la restitution par l'Union européenne de l'argent pillé qui se trouve en Europe, information publiée par le quotidien d'Oran. L'élection présidentielle algérienne est prévue le 12 octobre prochain. Le festival Lector in Fabula de Conversano dans les Pouilles a accueilli Mediterraio, un festival qui rassemble un très nombreux public. Imaginez-vous, rien qu'en lycéen, ils sont 2000 par jour à assister aux dizaines de conférences qu'animent 300 invités, dont 150 venus de l'extérieur, journalistes, écrivains, artistes, etc. Cette année, le thème en était « La Terre vue de la Lune » en référence aux 50 ans de la conquête de la Lune. Michel Krishka était l'un des invités du festival. C'est un des plus grands dessinateurs de presse d'Israël. Il a aussi produit de nombreux livres en bande dessinée. Il nous parle de son métier attaqué dans son pays, mais aussi ailleurs, et des relations israélo-palestiniennes.
Méditerranée, le reportage.
Il y a la société civile dans laquelle il y a des ponts qui sont construits contre vents et marées par des gens, des Palestiniens et des Juifs israéliens de bonne volonté. Et ça dit une chose, les peuples, c'est un peu caricatural, disons, un peu synthétisé ce que je vais dire, d'accord ?
Mais caricatural, c'est bien pour vous.
C'est mon métier, bien sûr, c'est mon fonds de commerce. Je pense que les peuples sont plus prêts à une solution que les dirigeants.
Alors aujourd'hui, les dessinateurs de presse sont malmenés un peu partout, pas seulement en Israël, mais par exemple, le New York Times ne publie plus de caricatures, alors que si la presse est l'expression de la démocratie, la caricature est le chien de garde de la démocratie, la caricature, c'est la puce qui démange et qui dérange, et cette puce-là, elle est crainte au point de vouloir l'éliminer.
J'ai grandi avec Charlie Hebdo, avec Reiser, des choses qui aujourd'hui seraient impubliables. Personne ne publierait Reiser tel qu'il a été publié au début des années 70 en France. Sa critique acerbe de la société française, avec les gros dégueulasses, il est allé tellement loin, mais voilà, il y a une espèce de régression qui est juste l'effet d'une espèce de vague qui va monter, qui va descendre. En ce moment, il y a le politiquement correct qui a remplacé la censure dans les démocraties. Et il est pire que la censure, parce que la censure, elle avance à visage ouvert. Et le politiquement correct, non. C'est insidieux. C'est bien que vous parliez du fait que ça se passe dans le monde, parce que moi, c'est la seule consolation que j'ai de ce qui se passe en Israël. C'est que quand je me retourne même vers la France, vers d'autres pays, ou les États-Unis, qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, on voit bien ce qui se passe là-bas au niveau des fake news, au niveau des médias qui sont personnels non grata à la Maison-Blanche parce que ce qu'ils écrivent déplaît au président. Le New York Times, ce n'est que le symptôme de cette maladie. Le hasard a voulu que c'est à cause d'un dessin jugé antisémite, d'accord, que toute cette affaire est éclatée et que finalement, d'un côté, le journal s'est excusé, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Un journal aussi important que le New York Times aurait dû assumer la responsabilité de ce qu'il avait publié et s'expliquer à ses lecteurs. Et si ça leur plaisait pas, eh ben ça leur plaisait pas.
Quoi qu'il en soit, on ne peut pas oublier le fait qu'en 2015, en France, des dessinateurs de presse ont été assassinés.
Je suis le premier à ne pas l'oublier. D'abord, Tignoux était un ami proche. Je connaissais Cabu. Je connaissais Honoré, je connaissais Oulinski.
Ce qui veut dire combien le dessin peut être porteur de messages.
C'est un cas extrême et ça ne peut pas servir de cas de figure à ce qui nous attend, nous les dessinateurs. Parce que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, d'abord c'était pas que Charlie Hebdo, parce que c'est devenu Charlie Hebdo. À Charlie Hebdo, il y a 5 dessinateurs, mais il y avait aussi 7 autres personnes. Le lendemain, il y a eu une policière et le surlendemain, il y a eu 4 Français juifs de confession qui est allé faire leurs courses pour Shabbat à Hyper Kasher. Donc c'est pas la caricature qui a été attaquée. C'est la société occidentale et le modèle républicain français dans ce qu'il représente. Et malheureusement, mes amis ont payé un prix lourd pour des dessins qu'ils ont faits et là, je trouve que la conséquence la plus terrible de ça, c'est que les gens se sont demandé après, mais peut-être qu'ils étaient allés trop loin, comme s'ils méritaient d'avoir été tués. Et là, ça veut dire qu'il y a vraiment du travail à faire. Et ce travail, il faut le commencer dans les écoles, par l'éducation, par la didactique.
Vous allez rencontrer des lycéens. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Je vais parler plutôt des valeurs, que j'estime qui sont les valeurs humaines primordiales, et qui sont communes au peuple, qui sont communes aux êtres humains. Et vous savez, le dessin de presse, c'est pas un métier qu'on choisit. C'est le métier qui vous choisit. C'est une vraie vocation. Je pense que tous mes collègues et tous les gens que je connais comme Plantu et comme ceux qui ont été assassinés à Charlie Hebdo et les autres, ils ont eu cette espèce d'appel fort quand ils étaient gosses et ils se sont dit « c'est ça que je ferai quand je serai grand » et ils le font, c'est mon cas aussi. Exprimer son opinion, eh ben c'est tout à fait légal. Qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, qu'on peut ne pas être d'accord et en parler d'une façon civilisée, qu'il y a des lois qui régissent les choses. Vous savez, en France quand même, à Charlie Hebdo, puisqu'on en a parlé et j'en reparle, il s'était quand même protégé par la police, ben ça n'a pas suffi. Parce que la terreur, elle est aveugle, elle est prête à tout. Mais la terreur, ce sont des cas extrêmes. Les cas plus graves, ce sont des dessinateurs qui sont aujourd'hui jetés de leur journal, ou jetés en prison par Erdogan, ou jetés de leur journal aux États-Unis. Je ne parle pas d'une dictature lointaine. Ce sont des assassinats d'une autre forme. Et nous, à Cartooning for Peace, on s'organise pour prendre la défense de dessinateurs en danger. Et on en a partout, en Indonésie, au Maroc, en Algérie. Partout dans le monde, il y a des dessinateurs.
Et pourtant, alors, paradoxalement, avec des Trump, des Erdogan, des Orban, avec des Salvini, avec des Brown en Angleterre, c'est du pain béni pour les dessinateurs, ça.
Ça, il faut reconnaître qu'ils nous donnent quand même... ils nous font la partie agréable.
Si tu es né dans une cité HLM,
je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Elle émane pour faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer
cette vie morose contre le parfum d'une rose.
Je suis nerd. ولادنا وحلنا ضيسفنا من ومن سوى انت تغزى
شنو مورد فيتشر تغريني الخنا
با دو بولو با دو ديبلوم بارتو لا ميم
اودور دو زون بلو ريان اجيت تي نورون
با ميم لو شيت كو تو مي دون تي كون
افونت وكادي تيفنان الجنا خام ديم فلس وغنذ الكرا يكران Coule et goule, elle dit Khalas.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal.
Nous, le futur terrine, il chna.
Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
D'amour et de sa vie, Moulin, avec qui a coulé,
أكني دسني هو خدمان وريز مهير حتى تياوي
Lève la tête, regarde ces feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
Je suis là, et douleur est là. Sois à l'honneur, dis c'est fenêtre. La nuit même, sois peut-être ça.
Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau,
servir à la croissance de tes mamots. Servir à la croissance de tes mamots.
Je suis là, et douleur là. واحد المرض يسافنا لنوى ما استوان تتغزى
شنو مولد كتشر تغريني لخنا
سليمة دنو فوبان دنو ريفير دنو مونتان دلا بيمان دي موند انيمال كري لو بيان فور اش تي كور دو فوكال
ميشيل كريسكا. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la presse française, notamment les dessinateurs français, relatent comme il faut le problème du Moyen-Orient, le problème israélo-palestinien ?
Je ne suis pas toujours ce que font tous les dessinateurs français. De temps en temps, je vais voir à gauche, à droite. Mais bon, disons que on va parler du conflit dans un dessin que quand il y a une actualité brûlante ou que quand il y a quelque chose de nouveau à dire. Alors, je ne sais pas ce qu'ont fait les dessinateurs français sur les élections qu'on vient d'avoir en Israël il y a une semaine. J'ai pas encore fait le tour de la question, mais c'est vrai que traditionnellement, il y a eu dans la presse française un certain parti pris pro-palestinien, et c'est pas illégitime, c'est une position que je peux comprendre. Mais je pense que les médias, et ça me gêne parce que je regarde plus la télé que je ne lis les journaux, j'ai les câbles, je vois les chaînes de télévision françaises, la manière dont l'information est transmise dans les JT, elle est trop réduite. Elle est trop réductrice surtout. C'est ça qui est le problème. C'est pas qu'elle soit. Elle est réductrice. Et je ne suis pas sûr que les téléspectateurs français aient un regard suffisamment global sur le conflit pour comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est toujours les mauvais Israéliens, les méchants Israéliens contre les gentils Palestiniens. Et vous savez, dans ce conflit, il y a deux responsables. Il y a les Palestiniens d'un côté, et je leur mets 50% des responsabilités sur le dos, et Israël, auquel je mets aussi 50%.
Ceux qui habitent sur la bande de Gaza, ils ne sont pas tellement favorisés. Sont-ils les premiers responsables aussi ?
Non, la bande de Gaza, c'est un cas à part, d'accord, dans la question palestinienne. Ils sont déjà, d'abord, c'est le Hamas. Ils sont en opposition avec le Fatah, qui est en Judée-Samarie. Et moi, je pense que la population gazaoui civile, elle est prise en otage par le Hamas. Et j'entends beaucoup de voix. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes israéliens arabisants qui parlent en arabe parfait et qui ont des interlocuteurs journalistes qui se cachent dans Gaza et qui donnent des interviews radio sans se montrer sur la réalité de ce qui se passe à Gaza. Et en Israël, on a une meilleure vision de l'intérieur, en fait, grâce à cela. Et c'est sûr que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, immense, d'accord ? Mais d'un autre côté, maintenir les Gazaouis dans un statut de réfugiés ad vitam aeternam, c'est pas une solution.
Les Arabes israéliens qui ont permis finalement de ne pas donner en votant, de ne pas donner la victoire à Netanyahou, ça vous satisfait ? Vous êtes plus optimiste sur le gouvernement qui pourrait naître de ces élections en Israël ?
Écoutez, je suis très content d'abord que le vote arabe en Israël ait été cette fois-ci le plus élevé au niveau de la participation, c'était 70%, et c'est inédit, ça n'a jamais été comme ça. D'abord, d'un côté, pour eux, leur représentativité à la Knesset, au Parlement, est beaucoup plus proportionnelle à leur part dans la population, qui est autour de 20%. D'un autre côté, c'est un frein à la droite. J'espère que le procureur de la République mettra Netanyahou en face de ses responsabilités légales, et il ne pourra plus continuer à diriger le pays. C'est ce que je souhaite. Et je le souhaite en tant qu'homme de gauche, d'accord, mais en tant qu'Israélien qui veut un pays propre.
La Méditerranée, vue par le professeur Jacques Orson, il l'a décrit dans son livre « Le ciste et le jasmin », deux plantes symboliques de Méditerranée, dont le ciste qui illustre la Corse, une Méditerranée bronzodrome des pays du Nord et des îles dont la Corse sans grand avenir méditerranéen dans la situation actuelle. Mais existe-t-il une politique méditerranéenne des pays européens ?
Méditerranée, l'interview.
Il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, avec d'ailleurs le général de la politique du général de Gaulle, qui était quand même très tournée vers la Méditerranée. Il y a eu un moment où la diplomatie française et puis plus largement européenne regardait les pays bordant la Méditerranée, sur la rive nord comme sur la rive sud. Et puis tout ça s'est évanoui en partie à partir des années 90, après la chute de l'Union soviétique, quand les pays de l'Allemagne centrale, qui quand même avec l'Allemagne constitue le cœur économique, mais même pas vraiment politique, mais le cœur de la puissance européenne, s'est tourné vers l'Europe de l'Est et a abandonné pour différentes raisons le souci et l'intérêt qu'il marquait à l'Europe du Sud.
Puis un autre constat que vous faites, c'est que le système économique libéral occidental ne convient pas aux réalités économiques et sociales méditerranéennes. C'est vrai qu'il y a un tropisme en anglo-saxon et ça ne sert pas la Méditerranée.
C'est un tropisme anglo-saxon. Alors, mais je ne sais pas de quel côté est tourné le tropisme. Est-ce que c'est les pays du sud de la Méditerranée qui regardent le monde anglo-saxon et qui en font un modèle? Non, en réalité, c'est le tropisme du monde anglo-saxon vers les pays de la Méditerranée, parce que les pays qui ont actuellement le plus de mal, ceux qui sont au-delà de la ligne de faille qui en Méditerranée partage le nord du sud, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, et quand même tourné pour les anglo-saxons, pour les pays européens en général, vers ce sud et cet est surtout, qui recèle des richesses, essentiellement le pétrole.
Ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il y a une méfiance des décideurs du nord de l'Europe à l'encontre de la Méditerranée. Ces managers du nord, écrivez-vous, qui n'aiment la Méditerranée que durant leurs vacances. Une espèce d'image qui perdure de cette Méditerranée quelque peu fainéante et qui se laisse vivre.
Ah ben, c'est une image ancienne, c'est une image qui date du 19e siècle, peut-être même avant. Alors, deux choses. En Méditerranée européenne, c'est-à-dire la rive nord, ben pour les gens du Nord, c'est toujours dans un climat de gabegie, de laisser-aller, de fainéantise, d'agiotage. On a besoin de la morale stricte des gens du Nord pour y rétablir de l'ordre. Évidemment, ce point de vue-là plaît pas tellement à ces Méditerranéens que nous sommes d'ailleurs. On considère le Sud, c'est-à-dire la rive qui va de la Méditerranée d'Agadir, qui n'est pas tellement Méditerranée, jusqu'à Beyrouth. On considère cette Méditerranée comme un lieu d'affrontement et un lieu aussi qui a toujours été d'une certaine manière l'ennemi par excellence.
On a l'impression que le Nord se venge de la Méditerranée parce que finalement elle a apporté la civilisation. C'est quelque chose qui paraît insupportable pour eux. Est-ce que c'est un peu ça par exemple?
Moi je crois que c'est beaucoup ça. Ça se remarque même dans les politiques les plus récentes. Par exemple, la manière dont on a eu de traiter les Grecs à partir de 2008. On a considéré les Grecs à la fois comme des sous-développés, à la fois comme des gens plutôt malhonnêtes. Puis pour tout dire un peu, de manière raciste, un peu levantin, comme les chrétiens d'Orient d'ailleurs. Regardez la manière ambiguë, par exemple, de l'Allemagne. D'un côté, la grande philosophie allemande n'a cessé depuis le 18e siècle et le 19e siècle de loucher sur la Grèce, au point de se vouloir elle-même l'héritière des Grecs, de ces Grecs indo-européens et doriens. Mais par certains autres côtés, elle les a punis en 2008 parce que elle a considéré que les Grecs avaient peut-être un petit peu usé de manière abusive de l'argent qui pouvait venir de Bruxelles.
Peut-être parce que les politiques aujourd'hui sont uniquement basées sur l'argent, le profit, le libéralisme spéculateur, que sur la culture. Giscard avait voulu intégrer la Grèce qui n'avait pas le niveau économique parce que c'était le pays qui avait apporté la civilisation à l'Europe. Il avait dit on ne peut pas la laisser de côté. Et uniquement, ensuite en 2008, on a eu que cette vision absolument comptable qui détruit toutes les spiritualités, quoi.
C'est pas seulement la vision comptable, c'est une vision jalouse. Qu'il y a une jalousie, peut-être, la crainte, non jamais dite, de voir se reconstituer un grand empire méditerranéen qui concurrencerait un empire de l'Europe du Nord dont les vertus seraient de seules des vertus comptables, économiques.
Quant aux rivages orientaux, vous tirez un bilan désastreux des révolutions arabes.
Non, ça n'a rien changé. Les révolutions arabes ont abattu des régimes despotiques. Je pense à Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, ou même Bouteflika, hein, c'est quand même pas un modèle. Mais on a battu ces régimes, sauf à ça, bien entendu. Hein, mais on a battu ces régimes pour mettre quoi à la place ? Pour mettre quoi à la place ?
Io ballati, a ballati, femminischette maritati, e sono a ballati, poi non vi canto e non vi suono. A ballati, femminischette maritati, e sono a ballati, poi non vi canto e non vi suono. Su, 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 quando femmini cacci su, cinque quattro scavanzati, ni facemo che patati, cinque quattro maccatelli, ni facemo che piselli. Uomini schette maritati, essermi abballati, buoni non vi cante non vi son. Abballati, abballati, uomini schette maritati, essermi abballati, buoni non vi cante non vi sono. Su, 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 quando uomini cacci su, cinque quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque quattro maccatelli, ni facemo che vi senti.
Professeur Orson, il convient, dites-vous, de construire un autre univers méditerranéen. Quel rôle pourrait jouer la Corse ? Quelle place la Corse dans cette Méditerranée et la place des îles aussi ?
Pour l'instant, les îles ne sont qu'un poste avancé. Allez, je vais vous dire quelque chose un peu choquant peut-être, mais je ne vais pas j'emploie l'expression. Des puissances européennes, blanches et chrétiennes, pensent qu'elles peuvent être considérées, qu'elles ont été un petit peu utilisées comme ça, par exemple, il y a 3-4 ans, hein, quand les grands flots d'immigration passaient, venant de Syrie et d'Irak, passaient par la Turquie et traversaient la mer et s'installaient sur les îles grecques, où elles sont toujours implantées, dont on parle moins qu'on ne parle de l'Italie.
Est-ce qu'il est nécessaire, alors, à ce moment-là, que ces îles de Méditerranée, les grandes îles notamment, dont la Corse, s'émancipent pour pouvoir jouer un véritable rôle en Méditerranée ?
Et mon livre, en réalité, c'est de se poser deux questions qui sont des questions... un, économique, deux, démographique, parce que la Corse connaît des gros problèmes sur ce plan-là, économique et démographique, et qui ont en arrière-fond la recherche de ce que nos politiques appellent une autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir se donner à soi-même les conditions d'une vie décente, quoi.
Pour pouvoir éventuellement jouer un rôle en Méditerranée, c'est d'acquérir une autonomie, voire une indépendance.
Si vous voulez, c'est pas sur ce plan-là que je me situerais, ou autonomie versus indépendance, mais les capacités par elles-mêmes de pouvoir décider de leur destin, voilà.
Et est-ce qu'il faudrait à ce moment-là, pour qu'elles soient un peu plus présentes dans ce jeu méditerranéen, qu'elles aient des partenariats, comme vous le souhaitez, un peu plus importants, notamment au niveau universitaire, par exemple, entre les différentes universités ?
Mon avis, ça a toujours été ça. La Corse peut jouer un rôle à mi-chemin entre l'Europe continentale française, hein, quand les Corses émigraient beaucoup vers l'Empire colonial. Les Corses peuvent jouer un rôle sur ce plan-là. Et le premier rôle, c'était, en tant qu'université, d'accueillir autant que faire se peut, hein, et autant que le nombre on pouvait en accueillir, des gens qui venaient essentiellement du monde arabe, puisque moi j'ai beaucoup travaillé dans ce monde-là, des échanges culturels importants, hein, pas seulement sur le plan intellectuel, sur le plan universitaire, que l'on soit le plus ouvert possible sur ce monde-là.
Merci au professeur Orson. Méditerradio se termine. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien avec la Méditerranée à 7h10 avec la chronique Mare Latino. Bon week-end et bonne semaine.